midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez désormais, vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Le congrès annuel du réseau Curie ouvre aujourd'hui, l'occasion de vous montrer qu'on peut être chercheur et start-upper et que les deux mondes dialoguent de plus en plus, y compris chez nous en France. Elle fabrique des crèmes, des cirages et des vernis pour vos chaussures depuis 1879 à Mullard et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez peut-être faire baisser votre consommation d'énergie car vous redoutez la nouvelle hausse du prix de l'électricité, c'est possible, la solution c'est EcoJoco, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
C'est le congrès annuel du réseau Curie qui débute aujourd'hui et c'est l'occasion pour nous de regarder de près, Anissa, comment le monde des chercheurs est en train d'évoluer.
Et si vous aussi, de l'autre côté de la radio, vous avez des questions à poser à ces gens qui se lancent et qui innovent en matière de recherche, n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous pouvez également réagir, témoigner, poser vos questions sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et oui, vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on est chercheur, qu'on trouve une idée, une solution, eh bien, elle peut sortir des laboratoires. Certains ont d'ailleurs transformé leur découverte en véritable start-up. Et vous allez voir que le modèle fonctionne de plus en plus et de mieux en mieux aussi pour accueillir nos invités. Comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag, bonjour.
Salut Raphaël et bonjour à tous.
Et Riad Boulanoir est notre coach fondateur de la méthode Boulanoir et notamment du compte Nickel. Bonjour Riad.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
La recherche est une véritable source d'innovation et certains chercheurs ont compris l'intérêt qu'ils avaient à développer leurs découvertes en dehors des structures universitaires ou des instituts. C'est votre cas, Xavier Duporté, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes docteur en biologie de synthèse et vous avez cofondé la start-up Eligo Bioscience en 2014 avec David Bicard. Votre mission, si je résume, c'est de créer des antibiotiques intelligents qui font en fait une sorte de tri dans les bactéries et qui vont aller s'attaquer uniquement à ce qu'il y a de mauvais.
Exactement.
Alors racontez-moi comment vous vient l'idée, non pas des antibiotiques, mais de la start-up.
Alors, je pense qu'il y a deux facteurs clés. Le premier facteur, c'est que j'ai eu la chance de faire ma thèse entre l'INRIA en France et le MIT à Boston. Plongé dans un univers que je ne connaissais pas à Boston, où en fait la plupart des professeurs sont aussi cofondateurs de start-up, où en fait être entrepreneur, c'est pas forcément faire que de la tech, que du digital, mais c'est aussi vraiment transformer une invention qui vient d'un laboratoire de recherche en un produit pour s'attaquer à un problème soit industriel, soit sociétal. Et là, ça faisait déjà quelques années qu'on discutait de développer des technologies avec mon ami David Bicard, qui est maintenant notre directeur scientifique et aussi professeur, directeur d'un laboratoire à l'Institut Pasteur. Et au fur et à mesure de discussions avec lui, et puis au fur et à mesure de rencontres avec des chercheurs entrepreneurs inspirants de Boston, on s'est dit on a peut-être quelque chose à faire avec la technologie qu'on est en train de développer.
Oui, parce que là-bas, vous aviez déjà fait état de plusieurs de vos recherches et on vous avait dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es pas lancé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas créé une start-up?
Oui, ça c'était sur une petite molécule que j'avais découverte 3 ans avant en Nouvelle-Zélande. Et avec le parcours d'ingénieur français, moi j'avais fait l'agro, puis un master, c'était pas vraiment quelque chose qui nous était enseigné, on n'avait pas vraiment d'inspiration, de source d'inspiration pour passer de la recherche à l'entrepreneuriat à l'époque, c'était en 2010. Maintenant, les choses ont changé. Mais après, à Boston, du coup, la première technologie était passée, la deuxième qu'on a développée, que j'ai développée, a été reprise par un grand labo pharmaceutique, et la troisième, qui était la bonne, avec David, on s'est dit, celle-là, il faut, pour la pousser, pour soigner des gens, il faut la sortir de l'université et monter une boîte pour pouvoir la développer.
Comment vous faites? Vous rentrez en France, vous fondez Eligo, vous étiez à l'époque encore en train de faire votre thèse. Donc avant de trouver la solution finale, vraiment, de pouvoir commercialiser, de pouvoir dire ça y est, j'ai l'objet, j'ai l'outil, vous montez la structure.
Alors oui, avant d'avoir un produit dans le domaine pharmaceutique, quand on développe une petite molécule ou un biologique, des protéines ou des choses un peu plus complexes, ça prend beaucoup de temps. Ça prend entre 10 et 15 ans avant d'arriver sur le marché. Et les taux de succès sont de l'ordre de 5% à peine.
Donc on fait un pari, en quelque sorte.
On fait un pari, mais avec une très bonne science. Et en fait, la biologie et la médecine, ce qui est très compliqué, contrairement à ce qui est plutôt informatique, hardware, c'est que les paramètres qui ne sont pas connus sont des milliers et des milliers. quand on travaille avec une puce informatique, on sait que la température, les contraintes physiques, chimiques, de quand on met un médicament dans le corps humain, c'est un peu une boîte noire. Et donc en fait, ça prend 15 ans pour, enfin 10 à 15 ans et des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, voire des milliards aujourd'hui, pour passer de quelque chose qui marche en laboratoire, d'abord en boîte de pétri, puis chez des animaux, des souris, puis on valide que non seulement ça marche, mais que c'est safe chez des souris.
Oui, que c'est pas dangereux,
c'est pas dangereux
en tout cas.
Excuse-moi pour l'anglicisme. Et ensuite, on passe chez les humains et là,
avec
c'est très, très, très réglementé avec les phases cliniques, pour, avec des tout petites cohortes d'humains d'abord pour montrer que c'est encore que
mais
c'est pas dangereux.
Mais il faut qu'en parallèle la start-up, en tout cas l'entreprise à côté, soit prête à démarrer quand le produit, lui, est bon pour être sur le marché.
Alors nous, on a commencé la start-up bien avant que le produit soit prêt. Hein. On l'a commencé en 2014. On avait des belles publications dans des beaux journaux. Mm-hmm. Et on a convaincu des investisseurs français puis américains qui ont une vision assez long terme en disant « Votre approche, potentiellement, elle peut changer la donne. Donc on va vous backer dès le début. »
C'est-à-dire on va être derrière vous.
On va investir et puis on peut plus ça va coûter d'argent et on sera encore là. Et puis au moment où soit la science dit en fait c'était une belle idée mais il y a des contraintes qu'on ne peut pas arriver à résoudre, des problèmes qu'on ne peut pas arriver à résoudre et qu'on arrête, soit eh bien on va continuer de financer pour aller jusque dans les essais cliniques en espérant à terme pouvoir commercialiser.
Ouais, et c'est le cas hein, puisque la start-up a pris son envol. Vous êtes une trentaine, c'est ça maintenant?
Oui.
À Biotech, à Paris Biotech.
Paris Biotech Santé, l'incubateur, la pépinière Paris Biotech Santé, oui.
Que dit notre coach de l'aventure, justement, de Xavier Duportet?
Je trouve ça fascinant, déjà d'un point de vue biologique et technologique, c'est l'avenir. C'est réellement l'avenir, là, on est sur des choses d'avenir. Par contre, j'ai une question à vous poser, c'est comment vous expliquez cette différence de culture et de mentalité entre finalement la France, où toutes vos recherches sont restées lettres mortes, ou rapports de stage, ou de thèse à faire reprendre par le prochain, à finalement des fonds qui vont investir massivement. Je crois que vous m'avez dit plus de 20 millions d'euros ont été investis dans votre société. Comment vous expliquez cette différence de mentalité? Pourquoi nous, en France, le public, ça ne marche pas, quoi? La recherche, ça ne marche pas?
Alors, je serais un peu moins...
Ça marche moins, on va dire.
Ça marche moins. Alors, l'entrepreneuriat scientifique existe depuis très longtemps. Il y a un renouveau en ce moment avec les deep tech, parce que toutes ces technologies un peu se démocratisent, comme le web s'est démocratisé il y a quelques années. On a des très belles boîtes françaises qui sont issues des laboratoires de recherche, qui ont été créées il y a 10, 20 ans, 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a un peu le côté noble de la science en France qui fait que, encore pendant très longtemps, et encore un petit peu aujourd'hui, c'est quand on va dans l'industrie, c'est soit qu'on est un mauvais chercheur, soit qu'on y va pour faire beaucoup de cash. Sauf que quand on sait au final que ça prend 15 ans et que les chances de réussite sont minimes, on y va pas que pour le cash, on y va aussi pour répondre à des vrais problèmes. C'est en train de changer. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont eu la chance, et puis ils ont aujourd'hui d'avoir par exemple Elon Musk, qui... On peut penser ce qu'on veut de l'entrepreneur, mais la vision qui pousse, c'est on peut faire des entreprises qui changent le monde avec la science. Je pense que ça donne un renouveau particulièrement fort aux US. En France, on manque clairement, et en Europe, je dirais, on manque clairement de rôle modèle. Nos rôles modèles dans l'entrepreneuriat en France sont des gens toujours les mêmes, qui viennent de l'univers du web. Et si on veut inspirer les jeunes, leur montrer que la recherche, oui, ça prend du temps, oui, c'est compliqué, oui, c'est très risqué, mais s'il n'y a personne pour les inspirer et les pousser à dire mais on peut changer le monde avec ça, il faut y aller. Donc aujourd'hui, il y a un vrai, je pense, besoin de mettre en avant des chercheurs entrepreneurs, pas que des jeunes.
Et il y en a. Je voudrais qu'on cite quelques exemples, d'ailleurs, Elisabeth, puisque vous en avez trouvé des purs scientifiques qui sont devenus entrepreneurs.
Mais oui, comme par exemple Michael Tanter, hein, qui est un physicien français. Et lui, il a déposé plusieurs brevets. Il a créé des entreprises pour exploiter justement ses propres brevets, comme par exemple Supersonic Imaging. Mmh. C'est une entreprise qui commercialise son Explorer. Explorer, c'est un échographe ultra rapide pour le diagnostic du cancer, ou encore il commercialise aussi CardiaWave, un dispositif médical qui soigne un problème cardiaque. Vous avez aussi Frédéric Jérôme, lui il est chargé de recherche au CNRS, et il est cofondateur aussi de Glophotonics, c'est une start-up qui s'est associée à Thales Avionics et qui fabrique des lasers et des fibres optiques. Ou encore Lucille Nourry et Rémi Gomez, eux ce sont des ingénieurs formés aux arts et métiers, ils ont fondé la société Green Creative et ils commercialisent la R3D3, C'est une poubelle de tri intelligente.
Et vous allez voir qu'il y en a d'autres. On reste ensemble aujourd'hui et on parle recherche et entreprise sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Sortir du monde scientifique pour entrer dans celui de l'entrepreneuriat, c'est possible. Et c'est aussi ce qu'a fait Camille Morvan avec Gauchaba. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui nous découvrons les sources d'innovation dans la recherche. Elles sont nombreuses, ils sont là, ce sont vos invités aujourd'hui, Raphaël Duchemin. Si vous avez vous aussi des questions à leur poser, n'hésitez pas, ça se passe dès maintenant au standard le 3921 et sur les réseaux sociaux, Twitter, hashtag Europe 1 Raphaël.
Quand on est chercheur, on a des intuitions. C'est assez vite qu'on vient d'inventer, qu'on peut trouver une application dans la vie réelle, qu'on peut sortir des tests de laboratoire pour devenir utile, c'est ce que vous pensiez un peu, je crois. Camille Morvan, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Avant même d'ailleurs de créer Gauchaba, vous vouliez déjà, quand vous étiez à Harvard, faire en sorte que vos études sur le comportement des gens puissent trouver une application et vous avez pensé assez naturellement, je crois, aux jeux vidéo. Pourquoi ?
Oui, tout à fait. Alors, pour moi, il y a vraiment une transition logique de la recherche à Gauchaba. Gauchaba, c'est une technologie qui permet de révéler les potentiels des candidats pour des jobs. Donc, on répond à un enjeu sociétal de compétitivité des entreprises en fluidifiant le marché de l'emploi et un enjeu côté candidat de les aider à trouver pourquoi ils seraient bons.
On profile en quelque sorte les candidats et on les anonymise. On fait en sorte que le jeu, finalement, permette de trouver la bonne personne pour le bon emploi.
Voilà, c'est ça. Donc le principe, c'est qu'en tant que, si vous êtes candidate pour aller travailler chez votre marchand préféré, vous allez passer une série de jeux vidéo qui vont évaluer vos savoir-faire et vos savoir-être. Et là, on est très bon, Gauchaba, c'est sur l'évaluation justement des savoir-être. Donc est-ce que vous allez être bonne en relations clients, ce type
donc,
de choses.
Donc au revoir le CV, etc., etc.
Oui, l'idée à long terme, c'est de remplacer le CV. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est encore un peu incontournable. Mais le problème du CV, c'est que c'est un outil très biaisé. Donc vous, en tant que candidate, vous ne savez pas quoi mettre sur votre CV. Et les gens qui lisent les CV, donc les recruteurs, ont leur propre biais aussi de lecture. Donc l'idée de Gauchaba, et c'est ce que je faisais déjà pendant ma recherche, c'est de trouver une méthode de qualification qui ne soit pas biaisée et qui permette de révéler vraiment qui vous êtes et d'aller mesurer vos compétences réelles.
Et c'est pour ça que vous avez été chercher Jamil Kemal, qui est votre cofondateur, qui lui était spécialisé dans les jeux vidéo et vous avez finalement mixé vos savoirs.
Oui, c'est ça. Donc, on est trois associés. Donc, moi-même, Jamil Kemal et Minfan, qui viennent tous les deux du monde du jeu vidéo. Alors, pour la petite histoire, c'est des collègues de ma sœur. Ma sœur travaillait avec eux avant. L'idée, en fait, en venant de la recherche, moi, avec mon parcours, ce que je sais faire, c'est identifier des problèmes, les adresser de manière scientifique et puis communiquer le résultat et avoir de l'impact sur le monde. Et évidemment, pour cela, il fallait que je m'associe avec des profils qui avaient des compétences que je n'avais pas. Donc, en particulier, le jeu vidéo qui permet d'aller toucher un public plus large. Le jeu vidéo, aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 40 ans. Tout le monde joue à des petits jeux sur son téléphone. Et donc, c'était une façon naturelle d'aller amener la science vers les candidats.
Mixer, ça s'imposait. Mais pourquoi la start-up ? Ça s'imposait aussi ? C'était une évidence ?
Oui, notre idée, c'est vraiment d'avoir un impact global. Donc, nos clients sont des grands comptes. L'idée, c'est qu'on veut fluidifier le marché du travail. Aujourd'hui, 67% des grandes entreprises ont du mal à recruter. Donc, c'est un problème de grande ampleur. La start-up, c'est ce qui s'imposait pour aller rapidement bouleverser un peu ce monde-là et fluidifier le marché de l'emploi de manière efficace.
Riyad ?
Ah, moi, je trouve ça génial parce que, en plus, c'est ce qu'elle a dit très justement, c'est qu'il y a une forme de complémentarité. Elle a utilisé la science cognitive pour la mettre au profit avec du ludique, avec du jeu, et tout ça pour finalement faire un business qui permettra et de le développer et de le voir à grande échelle. Je trouve ça très malin. Ce qui m'intéressait de savoir, c'est quoi les paramètres que vous arrivez à mesurer finalement avec ce jeu vidéo un peu orienté ? C'est quel type de paramètres, moi, recruteur, je peux voir que je n'arrive pas à voir sur un CV parce que, comme vous le dites, il est préformaté et que finalement, à peu près 90% des candidats ont à peu près les mêmes CV ou du moins les mêmes loisirs, quoi.
Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, 91% des recruteurs disent que ce qu'ils veulent pouvoir mesurer chez un candidat, c'est ses savoir-être, ses soft skills. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous travaillez dans une agence de retail, un magasin, il va falloir que vous sachiez lire sur le visage du client si le client est satisfait ou pas, quelles sont ses attentes.
Et ça, le CV ne le dit pas.
Vous pouvez essayer d'imaginer des choses à partir du CV, mais ça a de fortes chances d'être faux. Donc on a un jeu, par exemple, où vous allez avoir des images de personnes et vous devez juger de l'émotion qui est exprimée par cette personne.
C'est un peu de morphopsychologie.
Alors non, c'est pas de la morphopsychologie. Non, en fait, la morphopsychologie, c'est à partir du visage de la personne, identifier sa personnalité. Nous, ce qu'on mesure, c'est si lorsque vous regardez quelqu'un qui est en train d'exprimer de la colère, par exemple, est-ce que vous savez lire que c'est ça que la personne exprime ? Donc on va vraiment juste aller chercher du savoir-être assez immédiat, assez direct. Hein.
Vous êtes combien aujourd'hui dans votre start-up ?
Aujourd'hui, on est 15.
15. Au niveau des soutiens financiers, ça se passe comment ? Vous avez des levées de fonds prévues ?
Alors, on a la chance en France d'avoir un soutien incroyable, un écosystème incroyable. Donc moi, je suis rentrée des États-Unis pour monter ma boîte en France parce qu'il y a beaucoup d'argent pour l'innovation. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin de levées de fonds parce que voilà, on s'est développé, on a été rentable dès la première année. Et voilà, dans quelques jours, on aura une bonne nouvelle à ce sujet.
Une bonne nouvelle. Et il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont à la base, parce que vous avez cherché, Elisabeth, il y a beaucoup de scientifiques qui se lancent dans l'aventure.
Tout à fait. Il y a des entreprises qui ont été fondées par des scientifiques. Hein. Vous avez par exemple Owkin, O-W-K-I-N. Alors elle, c'est une start-up qui a été fondée par un mathématicien et un médecin cancérologue. Et l'idée pour cette entreprise, c'est de mettre l'intelligence artificielle au service de la recherche médicale. Vous avez la start-up TreeFrog qui industrialise une technologie spécifique pour la production de cellules souches. On peut remarquer qu'il y en a beaucoup dans le domaine médical, de la santé, ouais. Hein, dans le domaine médical. Là aussi, start-up très prometteuse qui vient de lever 7 millions d'euros. Et c'est l'exemple parfait de l'illustration de la rencontre entre ces deux mondes, le monde de la recherche et le monde de l'industrie.
On reste ensemble et on va continuer à parler recherche et entrepreneuriat aujourd'hui sur Europe
1. Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et vous l'avez dit, pour pouvoir sauter le pas, il faut des structures qui aident à passer du labo à la start-up. C'est ce que fait notamment Soscience. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1. La France bouge dans le milieu de la recherche. Chaque jour, nous vous faisons découvrir ces Français qui innovent. Et bien aujourd'hui, ils sont nombreux dans ce domaine-là. Il y a de nombreuses sources d'innovation. Vous nous les faites découvrir, Raphaël Duchemin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a déjà sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et au 39-21, appelez-nous. C'est le standard, 50 centimes la minute.
Mettre les travaux des scientifiques en lumière au service de la société et de notre quotidien. Voilà le but que s'est fixé Soscience. Bonjour Mélanie Marcel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez fondé cette start-up en 2013. L'idée, c'était vraiment de mettre le pied à l'étrier aux chercheurs pour qu'ils trouvent justement des débouchés dans l'entrepreneuriat.
Alors absolument, en fait, c'est une idée qu'on appelle nous de la valorisation sociale et environnementale. Aujourd'hui, le fait d'utiliser la science, la recherche, les travaux des chercheurs pour avoir un impact économique, créer des entreprises, créer des emplois, c'est ce qu'on appelle la valorisation économique. Et nous, on avait vraiment voulu resserrer en fait cette question-là autour de comment est-ce qu'on peut aussi utiliser ces travaux pour répondre directement à des enjeux de
société.
Qu'on
en voit vraiment, nous, la traduction dans notre vie du quotidien.
Alors non seulement dans la vie du quotidien, mais en plus sur des sujets sociaux et environnementaux. On va parler par exemple de sujets comme le changement climatique, comme évidemment des enjeux de santé, de bien-être, etc.
Et alors je crois que c'est en travaillant dans un labo vous-même que vous vous êtes rendu compte que vous ne saviez pas à quoi tout ce que vous étiez en train de faire allait servir plus tard. C'est ça qui vous a donné l'idée ?
L'idée originelle, j'étais effectivement ingénieur-chercheur, je travaillais pour une entreprise et moi j'étais passionnée en tant que scientifique, j'étais passionnée par la recherche, par comprendre ce que j'étais en train de faire et finalement la question de l'utilité de ce que je faisais ou de qui allait l'utiliser ou pourquoi c'était financé, quels en étaient les buts finaux finalement, c'était pas quelque chose qui m'avait guidée initialement dans mes choix, c'était vraiment la recherche scientifique qui me poussait. Et donc c'était ça aussi le début de ce science, c'était de se demander est-ce qu'on peut reposer la question du pourquoi dans les travaux des scientifiques.
C'est aussi une manière, ce que vous faites aujourd'hui, de suivre de bout en bout ce qui a été inventé. Quand ça devient produit ou autre d'ailleurs.
Alors ce qui est intéressant là justement et par rapport au lien entre recherche et entreprise, c'est que aujourd'hui on pense beaucoup l'innovation comme une ligne qui va d'un point A à un point B. Évidemment la recherche et l'innovation c'est des allers-retours permanents et ce qui est intéressant dans ces allers-retours c'est aussi la collaboration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a ici des exemples de chercheurs qui deviennent entrepreneurs donc c'est extrêmement intéressant mais il faut aussi penser la valorisation comme des collaborations entre des entreprises existantes et des chercheurs qui ont leur sujet bien précis et entre aussi les chercheurs et la société civile, les entreprises de l'entrepreneuriat social et solidaire, etc.
Alors qu'est-ce que vous faites vous et comment vous identifiez les gens qui vont avoir besoin de Soscience ?
Alors ça c'est très intéressant, nous on a des grands programmes phares chez Soscience qui sont ce qu'on pourrait appeler des programmes d'open innovation. Donc en fait on va poser une question qui cristallise des enjeux à la fois de recherche et à la fois de société. Par exemple, comment valoriser les déchets de fruits et légumes dans l'industrie pour avoir une application en santé ou en nutrition.
Donc ça, on a effectivement besoin des chercheurs et on a besoin de l'application dans la vie de tous les jours.
Absolument. Et donc sur cet appel à projet qu'on fait avec des partenaires, on va faire une sélection en fait, de 50 profils qu'on va toujours essayer de mélanger. Donc il va y avoir des chercheurs du public, des chercheurs du privé, des start-up, des entrepreneurs sociaux, des associations, des ONG. Et on va les faire se rencontrer et créer des projets de recherche et d'entreprise ensemble, en partant du constat en fait, que c'est cette collaboration entre société civile, recherche, entreprise qui va générer des solutions pour demain.
C'est comme ça qu'est né par exemple le savon contre la malaria ?
Alors, il n'est pas né comme ça, mais c'est exactement le même processus. C'est un entrepreneur social qu'on a aidé qui, effectivement, avait cette idée de produits d'hygiène pour lutter contre la malaria. Et c'est typiquement le genre de, nous, ce qu'on appelle des entrepreneurs socio-scientifiques qu'on aide avec Soscience.
Que dit le coach, Riyad ?
Alors, moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est pourquoi dans les R&D, dans les services de R&D des grandes entreprises, il n'y a pas cette de recherche et développement. Pourquoi il n'y a pas cette culture d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe dans la recherche ? Et pourquoi on a besoin de gens comme vous qui, finalement, est un peu l'agence matrimoniale entre la recherche et l'industrie, quoi.
Alors, il y a plusieurs points. Ce n'est pas forcément évident de travailler entre recherche et entreprise parce que ce n'est pas les mêmes langages, forcément. Ce n'est pas les mêmes temporalités. Mais il faut savoir une chose qui est très encourageante pour le futur, c'est que quand même, c'est des discours déjà qu'on entend de plus en plus. Et vous parliez au début de l'émission du réseau Curie et du congrès oui. Curie qui a lieu en ce moment. Et en fait, c'est très intéressant parce que le thème aujourd'hui de ce congrès, c'est pour une valorisation raisonnée et responsable. Et donc, on se rend compte que ça rentre vraiment de plus en plus dans les discours. Et donc ça, ça va changer et j'espère que ça va changer de plus en plus.
Elisabeth, il existe vraiment des réseaux aujourd'hui en France qui permettent justement ce lien entre chercheurs et entrepreneuriat.
Oui, parce qu'un scientifique, on l'a vu, hein, il est expert dans son domaine, mais il n'a pas forcément toutes les connaissances hein, dans des sujets comme le marketing ou comme les finances. Et il y a une structure qui s'est montée, que vous connaissez sûrement, ce sont les SAT, les SA2T, les sociétés d'accélération du transfert des technologies qui ont là-dessus leur rôle à jouer. Il existe un réseau français des SAT qui répondent à une partie hein, de ce défi. Hein. Le défi, c'est donc de mettre en lien la recherche et l'industrie, mais aussi pour lutter contre la fuite des cerveaux, parce que ça aussi, c'est un sujet quand on est chercheur, on part à l'étranger parce qu'on connaît les difficultés pour mettre en pratique sa trouvaille et sa connaissance.
On reste ensemble, on continue à parler recherche et entrepreneuriat sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et vous avez la parole bien sûr, 39-21, vous nous appelez, vous posez vos questions à nos invités et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec vos invités Raphaël Duchemin. Aujourd'hui, nous découvrons toutes les sources d'innovation dans la recherche et elles sont nombreuses et elles vous intriguent. Vous êtes nombreux aussi à vous poser des questions sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 et sur Twitter. Alors ça, c'est Twitter, c'est hashtag Europe 1 et sur le standard le 3921. Appelez-nous, n'hésitez pas.
Riyad Boulanoir est notre coach aujourd'hui. On parle recherche et innovation avec Xavier Duporté, cofondateur d'Eligo Bioscience, avec Camille Morvan, cofondatrice de Gochaba et Mélanie Marcel, fondatrice de Soscience. On a déjà une question, je crois, sur Twitter, Anissa.
Oui, on a une question de Marc, fidèle auditeur, avec le hashtag Europe 1, qui vous demande à tous les trois, est-ce que les structures d'enseignement supérieur ne devraient pas guider les jeunes chercheurs dans la création de start-up ?
Qui veut répondre, Xavier ?
Les guider, oui, en tout cas, leur montrer que c'est un parcours qui existe. On a monté récemment une structure qui s'appelle Deep Tech Founders, qui est faite expressément pour les gens qui sont dans la recherche en master, PhD, donc doctorat ou postdoc, après doctorat, justement pour les faire, pour dépasser les cours aujourd'hui qui sont très théoriques sur l'entrepreneuriat dans la recherche, par des cours vraiment pratiques. Et donc on a rassemblé, et c'est là les rôles modèles vraiment importants, on a rassemblé maintenant une centaine d'entrepreneurs scientifiques de renom en France, pour venir justement, pas prêcher la bonne parole, mais exprimer et partager leur expérience en disant que monter une start-up dans la science, bah, c'est génial, mais c'est dur, et bien faire comprendre aux chercheurs que ce parcours est possible, mais qu'il n'est pas, c'est pas une nécessité, c'est quelque chose où on peut aussi rejoindre des start-up, on n'est pas obligé d'en monter une, on peut rejoindre des start-up plutôt que de s'intéresser seulement au public ou des grands groupes. Et du coup, vraiment de partager cette expérience, et je pense que plus on aura partage d'expérience par des gens qui l'ont fait, comparé à des gens qui en parlent sans l'avoir fait, plus ça marquera et ça aidera les jeunes chercheurs à prendre conscience de cette possibilité.
Vous êtes d'accord, Mélanie Marcel ?
Absolument. Il se trouve qu'un autre signe assez encourageant, moi, on me demande de plus en plus d'intervenir en école doctorale, et en école d'ingénieur. Et je donne un cours qui s'appelle Entrepreneuriat et responsabilité. Et c'est de plus en plus demandé, donc je pense que les mentalités changent, mais je crois qu'effectivement il faut continuer à pousser ces sujets.
Vous voyez que les choses évoluent, vous aussi Camille ?
Oui, je voulais juste rajouter un point là-dessus, c'est que je pense que c'est pas nécessairement uniquement la responsabilité des universités, donc nous, chez Gauchaba, vu que ce qu'on fait c'est de révéler les potentiels, de voir ce pourquoi un candidat va être bon ou pas, je peux vous dire qu'en fait ça nécessite une technologie et ça nécessite un travail de fond, donc je pense que les universités peuvent faire une partie du travail et après il faut que des acteurs...
d'évangéliser finalement aussi.
Oui, et puis d'aller vraiment mesurer et révéler les potentiels à travers une techno.
Elisabeth, vous avez trouvé d'autres structures, hein. Il y en a de plus en plus qui mettent en lien les chercheurs et le monde de l'entreprise.
Oui, Science Me Up, elle fait la passerelle entre les scientifiques et les industriels. Eux, ils sont spécialistes du recrutement des talents scientifiques. Ils font en sorte que leur intégration dans l'entreprise se passe le mieux possible, hein. Ils emploient des experts scientifiques, ils les envoient en mission chez leurs clients pour soutenir leurs projets. CNRS Innovation se sont beaucoup investis là-dedans. C'est un fonds d'investissement dont le rôle est bien, c'est d'aider les chercheurs pour concrétiser leurs idées de start-up, pour valoriser leurs travaux. Ou encore Lab2, L-A-B-T-O-O, qui connecte les laboratoires et les entreprises qui ont besoin d'externaliser une partie de la recherche et développement avec les laboratoires experts.
Et puis il y a Hello Tomorrow, Xavier Duporté, puisque c'est un concours qui récompense les meilleurs projets de start-up et qui offre aussi une série de conférences. Donc vous êtes investi aujourd'hui clairement dans ces passerelles.
Oui. Et puis Hello Tomorrow, c'était un peu essayer de... Parce qu'on a en France, mais partout dans le monde, il faut, je pense, avoir une culture de... Alors, on a de très bonnes technos en France, on le répète souvent, et les Français sont très fiers d'avoir des très bonnes technos, mais il y a des gens très intelligents partout dans le monde, et le but, c'était de découvrir, de mettre en lumière tous ces chercheurs qui répondent à des problèmes de technologie, de société, et qui veulent transformer leur invention en produit dans le monde. Aujourd'hui, on a eu plus de 15 000 projets qui ont candidaté depuis 5 ans. Et nos 25 finalistes, au final, qui étaient au tout début de l'aventure, ont déjà levé depuis 4 ans plus de 400 millions et sont en train de faire voler des voitures. Il y a eu Lilium Aviation, une start-up qui fait, dont on a beaucoup parlé récemment. Ils ont eu 100 000 euros. Ils ont été grands vainqueurs il y a 2-3 ans. On a une start-up suisse, Jet Therapeutics, qui fait remarcher les paralysés avec des implants neuronaux. On a, un grand nombre de start-up qui sont en train de vraiment changer le monde. Et c'est fantastique de voir qu'à l'échelle du monde, il n'y a pas qu'aux États-Unis, mais c'est vraiment partout dans le monde que c'est en train que grâce à la démocratisation un peu de ces nouvelles technologies un peu hardcore, on a de plus en plus de jeunes qui veulent, de jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas de jeunes dans l'entrepreneuriat. Ça peut être des chercheurs un peu âgés qui décident de se lancer dans l'aventure.
Et c'est possible de le faire ici aussi, chez nous, en France. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci à vous.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle fabrique vos cirages de chaussures depuis 1879. Mais qui est Mullard ? Ah, Mullard, on va tenter de lever l'énigme. C'est l'entreprise qui va bien. Merci, dans un instant.
La France bouge sur Europe avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, vous découvrez l'entreprise française qui va bien. Aujourd'hui, cela fait plus de 140 ans qu'elle s'occupe de nos chaussures, cette entreprise.
Je vois que vous avez fait les calculs. Absolument. Et cette entreprise, c'est Mullard ou plutôt A. Mullard. Bonjour Audrey Aziza.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous dirigez les laboratoires JBM et c'est vous qui aujourd'hui commercialisez justement ces fameux produits Mullard. Alors d'abord, avant de remonter à 1879, dites-moi ce que signifie le A devant Mullard. Eh est-ce bien, que vous pouvez lever l'énigme
ici
même ?
Désolée, mais je ne vais pas pouvoir lever l'énigme,
personne
malheureusement.
Personne ne sait encore aujourd'hui.
On a fait des recherches incroyables, impossible de trouver le A de A. Mullard.
Oui, c'est Monsieur Mullard, mais on
c'est
ne connaît
Monsieur
pas
Mullard,
son prénom.
Mais on ne saura jamais.
Bon, il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, effectivement. Donc une sorte de mystère autour de l'histoire de Mullard. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis 1879 et la création de la maison, on y fait des cirages, des crèmes, des vernis pour les chaussures. Mullard est très vite devenu incontournable, en tout cas sur la place de Paris et puis très vite dans tout l'Hexagone.
Oui, tout à fait. En 1879, M. Mullard décide donc de fonder la maison Mullard. Donc, ça se trouve au départ à Pantin.
Pantin.
Voilà. Donc, c'est vraiment l'industrialisation française qui se met en place. Et voilà, aux portes de Pantin, aux portes de Paris, à Pantin, on découvre donc les usines qui se mettent en place. Et la maison Mullard donc, en fait partie. En 1918, donc, l'usine est structurée et se met complètement en place. Et on commence à fabriquer dès lors.
Et puis en 1919, Mullard devient le fournisseur officiel de l'armée française.
Tout à fait. Donc à la sortie de la Première Guerre, à l'entre-deux-guerres, on s'assoit comme le fournisseur officiel de l'armée, qui à l'époque s'appelle ministère de la Guerre et de la Marine.
Vous nous avez amené d'ailleurs quelques objets collecteurs, comme voilà. Ce cirage crème papillon noir, qui date de quelle époque ?
Eh bien, ça doit dater de l'époque, en l'occurrence, puisqu'on a arrêté cette marque-là après la Deuxième Guerre mondiale, en fait.
Alors, en 1964, là, il y a un gros changement, puisque la marque reste, mais elle change de main et elle change de raison sociale. Ça devient l'entreprise JBEM, les laboratoires JBEM. C'est un chimiste qui, en fait, va reprendre...
En fait, le chimiste de Mullard décide de reprendre la structure et... Lui s'appelant Yulzari, sa
garde
femme,
le Y.
Voilà, il garde le Y et il décide de changer le nom de la marque et de la société et transforme en laboratoire industriel JBEM.
Et puis il y a votre père qui arrive, qui connaît ce chimiste et qui arrive lui un peu plus tard dans l'aventure, 1987.
Tout à fait.
C'est très familial, c'est une entreprise qui est assez fermée, assez repliée sur elle-même.
Alors repliée sur elle-même, non. On est toujours ouvert sur l'extérieur. On a un laboratoire extérieur, par exemple, qui nous aide en termes de réglementation, de formulation également. Donc non, on est toujours dans une relation avec l'extérieur. Mais la maison Mullard est toujours restée une structure familiale.
Votre père innove, parce que c'est lui qui va lancer les aérosols, les fameuses bombes qu'on met sur les chaussures.
Les nouveaux aérosols, en fait, la nouvelle formulation d'aérosols. Auparavant, ça a été propulsé par différents gaz, en fait, le conditionnement en aérosol. Mais le vrai conditionnement qu'on connaît aujourd'hui à base de butane propane, le mélange basique, en fait, ça va être... avec l'élan, la nouvelle usine et mon père donc, qui décide de vraiment lancer ça dans une nouvelle usine de 2800
m2. Neuilly-sur-Marne. Vous arrivez un peu plus tard, 2006, à la tête de l'entreprise. Vous y étiez déjà. Vous avez joué toute votre enfance. Dès 7 ans, vous étiez sur les lignes de production l'été pendant vos vacances.
Mon père, pour lui, les vacances, il fallait participer à la collectivité. Donc on venait au minimum une semaine. On devait aller sur la chaîne aider les personnes de l'atelier, c'était fondamental pour lui. On devait connaître tous les postes. Et donc, avec mon frère, on était là. On étiquetait à partir de 8h du matin. Et c'était les vieilles étiquettes. Il fallait le faire
sont là,
à la langue.
Ces étiquettes avec nous, sur
Les vieilles
Europe.
Étiquettes à la langue, on collait ça. Ça avait le goût de poisson. C'était juste atroce. Hein, mais fallait voir. Hein. Et on en a des souvenirs magnifiques. On remplissait les boîtes de gomme. On était au milieu des ouvriers à la chaîne, donc on récupérait les aérosols sur la chaîne.
Et, voilà. Et c'est comme ça que vous avez finalement, vous êtes imprégné de l'histoire de cette entreprise. C'est ce que vous avez essayé de redonner à cette entreprise en arrivant à la tête de Mullard, faire revivre ce savoir-faire.
Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire et je trouvais important que l'histoire justement de cette usine, le patrimoine qui était là, les savoir-faire, c'était fondamental pour moi quand je suis arrivée de les mettre en avant, de les valoriser.
Riyad, le coach ?
Ben, on a parlé beaucoup de cirage, mais comment on fait quand on n'a que des baskets ?
Ah, vous allez voir.
Je le fais tout de suite.
Ah ben, allez-y.
Et ben, la nouveauté, c'est justement, on cherche toujours à innover et voyant que la plupart des gens apprécient énormément les baskets, on a sorti un coffret spécial basket avec un soin en flacon. Made in France, qui est fabriqué dans nos usines, qui a une odeur magique. Voilà, on a travaillé dessus aussi.
Il est là.
Et voilà, et avec
génial.
Une brosse, le produit, vos baskets sont comme neuves.
Vous vendez 250 000 boîtes de cirage, c'est ça
de
700
cirage.
000 aérosols. Ouais. La suite, c'est quoi ? Transmettre encore aux générations futures pour
Alors,
que ça reste
c'est
dans la
déjà
famille
transmettre aux Français. les savoir-faire, apprécier les vrais savoir-faire, apprécier l'histoire, le patrimoine qu'on peut avoir en France et qui doit être revalorisé, qu'on doit apprendre à valoriser de plus en plus. Et c'est important aussi de transmettre à nos enfants justement cette valeur du patrimoine pour pouvoir avancer. Pour moi, voilà, on ne peut pas avancer si on n'a pas des bonnes fondations. Et pour les générations à venir, c'est important aussi.
Et d'ailleurs, vous êtes entreprise du patrimoine vivant depuis
Exactement.
2016. À Mullard, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Les tarifs de l'électricité ont augmenté. Si vous voulez faire baisser votre consommation d'énergie pour ne pas payer trop cher, la solution, c'est peut-être bien EcoJoco. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui on va faire des économies.
Oui, le prix de l'électricité a augmenté ce week-end, une hausse de 6% qui est loin de faire l'unanimité. Alors Elisabeth, vous avez une solution, vérifier la consommation d'électricité en temps réel et même diminuer sa consommation d'énergie.
C'est ce que propose EcoJoco. EcoJoco, c'est un outil, hein, on peut dire ça comme ça, composé de deux parties. Il y a un capteur d'électricité qui se pose sur le disjoncteur hein, général de la maison et un assistant connecté qui indique la consommation générale de la maison ainsi que la consommation de chaque appareil en temps réel. Les deux objets sont liés à une appli, une application qui permet d'obtenir le détail de sa consommation mais aussi de recevoir des conseils sur la meilleure manière de la réduire. Bonjour Laurent Bernard.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO, le fondateur hein, d'EcoJoco. Alors parce que tous nos gestes, même les plus anodins, ont leur importance, vous avez créé EcoJoco avec la promesse de réduire de 25% notre consommation d'énergie.
Exactement. En fait, l'idée au début, c'est de dire que personne ne laisserait un robinet d'eau allumé pour rien pendant une heure. C'est quelque chose qui est choquant, qui est aberrant. Et pourtant, c'est ce qu'on fait en permanence avec l'électricité. Alors, pas parce qu'on est sadique, parce que en fait, l'électricité, c'est quelque chose qui est invisible. Un radiateur, par exemple, qui va rester allumé un degré trop.
Qu'on n'entend pas, plutôt.
Ouais, qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas, en fait. À part les ampoules, finalement, tout le reste de l'électricité est invisible. Un radiateur, par exemple, c'est un degré de différence, c'est 100 euros par foyer qu'on peut économiser par an. Toutes les petites veilles, vous savez, toutes ces petites choses allumées à la maison.
La télévision, par exemple.
La télévision, par exemple, c'est au global 80 euros par an, par foyer qu'on peut économiser. La plupart sont inutiles.
Alors concrètement, comment faites-vous ? Vous vous déplacez chez votre client pour identifier chaque appareil ? Comment ça se passe ?
Alors non, EcoJoco, ça s'installe en 10 minutes sans électricien. Donc il commande son EcoJoco.
Il est avec nous d'ailleurs, hein, le petit assistant d'économie sur europe1.fr.
Exactement. Et donc, il va se placer. Donc ça se passe en deux parties, comme vous l'avez dit. Il y a le capteur qui se pose sur le disjoncteur général. Il va simplement se poser. Donc il y a juste un adhésif, on le pose et c'est fait. Le capteur, il envoie l'information à l'assistant, donc qui est composé en fait de deux aiguilles, très très simple. La puissance en temps réel, vous allumez ou vous éteignez un appareil, vous allez voir cette consommation d'électricité. Et c'est la première fois que vous le voyez, assez surprenant de comprendre ce qui se passe à la maison. Et ensuite, l'aiguille du bas, elle va vous dire est-ce que vous consommez, surconsommez ou est-ce que vous économisez. Et donc, en permanence, toute la famille a accès donc à cet assistant qui va être dans une pièce à vivre pour savoir est-ce qu'on est bien ou pas sur notre consommation.
Et là, on peut assister, on peut faire des progrès, améliorer notre comportement aussi vis-à-vis de l'électricité.
Exactement, parce que donc, ce que démontre une étude du CNRS, on parlait du CNRS un petit
peu
avant. Exactement.
Ouais.
Nous, le projet, il a un peu commencé avec une étude du CNRS qui démontrait justement qu'on gaspillait 25% de notre consommation. Et 25%, c'est un chiffre qui est colossal. C'est 250 euros en moyenne par an. Alors, un peu plus depuis ce week-end, mais 250 euros en moyenne par an qu'on peut économiser.
Ah ouais. Riyad,
ouais, bah moi je connais bien ces types d'équipements parce que j'en avais acheté un il y a 2 ans ou 3 ans, je l'avais acheté au Canada. Et effectivement, alors ce qui est assez surprenant, c'est que vous voyez votre consommation. Dès que vous mettez votre plaque à induction, vous voyez le truc qui monte, il peut même sonner. Mmh. Et donc, ça change votre comportement. Et de facto,
on devient plus vertueux.
Et bah, du coup, vous réduisez. Alors, j'en ai même offert un à ma soeur et mon beau-frère qui aussi le laisse en permanence et de temps en temps ça bip. Effectivement, en fait, ça change notre comportement. Si on veut réduire la facture d'énergie, aujourd'hui, c'est la seule méthode, c'est de réduire sa consommation. Et effectivement, c'est un outil qui vous permet de voir tout le temps votre consommation et de savoir si vous êtes hors clou ou pas.
Mais on voit la consommation, mais comment on fait pour agir sur la télévision, sur le frigo, sur ces choses qui restent branchées en permanence ?
Et du coup, une fois que vous avez compris ce qui se passe à la maison, vous commencez à avoir des ordres de grandeur, nous on va vous proposer des conseils. Il y a une centaine de conseils qui sont proposés, qui sont tous hyper simples en fait. très efficace. Et comme vous allez mesurer ce que vous faites, vous allez être motivé. On va vous dire, faites telle action, vous allez le faire, vous allez voir le résultat et donc vous allez le faire.
Mais quel genre de conseil, par exemple ?
Bah, typiquement, des conseils sur une casserole, hein, c'est tout bête. Une casserole, si vous mettez un couvercle sur une casserole, pour la même énergie, enfin pour le même résultat, pardon, vous allez avoir deux fois moins d'énergie. Et donc, une fois qu'on vous l'a dit comme ça, bah, c'est pas forcément motivant, mais quand vous voyez cette aiguille et que vous voyez l'impact,
ça motive.
Et que vous voyez que 25%, ça c'est le résultat que vous obtenez, c'est colossal.
Combien ça coûte, EcoJoco ?
Alors, EcoJoco, nous, on le vend à 199 euros. Donc, l'objectif avec une facture moyenne de 1000 euros par an, c'est que ça soit rentabilisé en moins de 9 mois. Donc, c'est très rapide en retour sur investissement. Pardon. Et en plus, l'idée, c'est exactement ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est que chacun fait sa part, en fait. Chacun va contribuer, faire ses petits gestes, c'est déjà 250 euros par personne. Mais en plus, si on s'y met tous, et nous, notre objectif, c'est d'aller vers 5% des foyers. Si on s'y met tous, 5% des foyers, ça correspond à l'équivalent d'un réacteur nucléaire.
Donc vous faites du bien à la planète et au porte-monnaie.
Exactement.
Ça s'appelle EcoJoco, c'était la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Riyad, qui était notre coach. Nous, on se donne rendez-vous demain.
À
on
demain,
parlera
Raphaël.
Énergie solaire.